journal, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le président chinois a rendez-vous à l'Elysée. Il sera question de l'Ukraine et des relations commerciales de plus en plus tendues avec l'Union européenne.
Des ingérences étrangères concernent l'outre-mer aussi et pas que l'Hexagone. Exemple à Mayotte, une enquête de la cellule investigation.
Les européennes, un scrutin proportionnel à un tour, explication à suivre. On parle aussi des élections dans le billet politique de Jean Lemarié dans un quart d'heure. Emmanuel Macron est-il candidat ?
Pour remplir les centaines de fauteuils vides dans les théâtres, tous les soirs il existe des applications et les prix sont bradés. De quoi séduire les plus jeunes, vous l'entendrez.
Avant d'évoquer la Chine, l'armée israélienne encourage ce matin les Gazaouis présents dans l'est de la ville de Rafah, près de la frontière égyptienne, à rejoindre des zones humanitaires. Une évacuation temporaire, dit-elle. Environ 100 000 personnes seraient concernées, selon l'armée. Évacuation alors que des négociations doivent se poursuivre au Qatar sur une trêve dans la bande de Gaza. 7 mois après le début de la guerre contre le Hamas, Israël, de son côté, a déjà affirmé plusieurs fois préparer une opération terrestre dans le secteur de Rafah. Nous y reviendrons dans le 8.45. Xi Jinping est attendu aujourd'hui à l'Elysée par Emmanuel Macron pour une réunion où sera aussi présente Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Le dirigeant chinois est arrivé hier à Paris pour une visite d'État de 2 jours. Au programme aussi, une cérémonie officielle aux Invalides et ce soir un dîner d'État avant un déplacement demain dans les Hautes-Pyrénées. Dominique André, bonjour.
Bonjour.
Parmi les dossiers sensibles de cette visite, il y a l'invasion russe en Ukraine.
La guerre en Ukraine, au cœur de l'Europe, est un sujet prioritaire, a fait savoir l'Élysée. Hier, le journal Le Figaro a publié une tribune de Xi Jinping dans laquelle il écrit espérer que la paix et la stabilité reviennent rapidement en Europe. Mais le président chinois n'a jamais condamné l'invasion russe et prochainement, il recevra Vladimir Poutine pour la 2e fois à Pékin depuis le mois d'octobre. Durant cette visite d'État, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est que la Chine fasse pression pour faire évoluer Poutine et trouver une solution à ce conflit. Emmanuel Macron le croit-il vraiment ? Que veut au juste Xi Jinping, lui qui n'a parlé qu'une seule fois en un an par téléphone au président ukrainien Zelensky ?
Et les relations entre la Chine et l'Europe sont de plus en plus tendues. L'autre sujet délicat, Dominique, c'est le commerce.
Avec 49 milliards d'euros de déficit commercial pour la France en Chine et près de 400 milliards pour l'Union européenne, le rééquilibrage de la relation commerciale, c'est l'autre priorité de cette visite d'État. La politique défensive de l'Europe sur les voitures électriques chinoises irrite profondément Pékin. Bruxelles a lancé une enquête sur les subventions qui permettent aux industriels chinois de casser leurs prix. Il n'est pas impossible que des droits de douane soient imposés par Bruxelles à la Chine, qui a été qualifiée de partenaire, concurrent et rival systémique en 2019.
Dominique André, la Commission européenne multiplie en effet les enquêtes. Paris, en particulier, s'active dans la mise en place de nouvelles réglementations qui ont porté leurs fruits jusqu'ici. L'Europe parvient, en partie tout du moins, à mieux flécher les offensives chinoises qui se sont aussi transformées. C'est l'analyse d'Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, en charge de la géopolitique du commerce.
Depuis 2016, qui a été le moment de pic des investissements étrangers sortants, donc chinois, vers le reste du monde et également dans l'Union européenne, on a vu ces investissements baisser, mais c'est surtout les montants des investissements qui eux-mêmes ont été réduits et d'une certaine façon pour passer aussi sous le radar des contrôles des investissements entrants qui existaient déjà en France, dans d'autres États membres de l'Union européenne, qui ont été renforcés dès 2020 au moment de la pandémie et qui se sont encore renforcés à partir de la mise en place d'une coordination du contrôle des investissements étrangers dans l'Union européenne. Donc ces investissements non seulement sont plus petits, plus discrets, et ils ont surtout changé de nature, c'est-à-dire qu'il s'agissait plus avant de fusion-acquisition. Et maintenant, ce sont plus des investissements directs pour créer des nouvelles implantations d'entreprises en Europe et en France pour acquérir des savoir-faire et en particulier même des investissements dans des centres de recherche et développement.
La chercheuse Elvire Fabry avec Valentin Grille. Les ingérences étrangères qui visent la France ne se limitent pas à l'Hexagone. C'est une enquête de la cellule d'investigation de Radio France qu'on vous dévoile ce matin. Dans le journal de 7h, nous vous parlions des influences chinoises, russes et azéries en Nouvelle-Calédonie. Évoquons à présent un département français d'outre-mer avec vous, Frédéric Mettezo, et il s'agit de Mayotte.
Oui, la Russie a les yeux rivés sur ce département français stratégique, car Total exploite du gaz dans ce secteur de l'océan Indien. Et à Mayotte aussi, la Russie appuie là où ça fait mal, comme dans l'Hexagone avec les étoiles de David peintes sur les murs, ou comme au Mali et au Burkina Faso où la présence française était contestée. Et ce qui fait mal, c'est que les Comores voisines revendiquent Mayotte. Alors, la Russie l'encourage par la voix de Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères.
Des pays ont organisé la séparation du Kosovo de la Serbie ou de Mayotte des îles Comores. Ils nous donnent de bons exemples du deux poids, deux mesures.
À Mayotte, la population a choisi la France par référendum, mais ça ne dissuade pas les Comores d'actionner le levier migratoire. Elle laisse partir des milliers de personnes, pauvres et désespérées à Mayotte, où aujourd'hui plus de la moitié de la population est étrangère, la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa.
Les Comores assument complètement leur ingérence à Mayotte. Ça s'inscrit dans un discours nationaliste comorien. La détresse des migrants, c'est un outil politique pour le gouvernement comorien. Tous les services publics sont saturés. Ça veut dire une compétition pour accéder à l'école, pour accéder aux soins. Nous sommes un désert médical. Et ça a pour effet de faire imploser le pacte social et le pacte républicain.
Mayotte, qui est aussi la cible de campagnes de désinformation via les réseaux sociaux et de cyberattaques contre les services publics.
Enquête de Frédéric Mettezo à lire en détail sur radiofrance.fr. Des influences à un mois des européennes. À partir d'aujourd'hui, les candidats doivent enregistrer leur liste au ministère de l'Intérieur. Au total, 720 députés européens seront élus à travers l'Europe, dont 81 français et 16 Allemands. L'Allemagne dispose du quota le plus important, la répartition étant effectuée au prorata de la population. Et les députés sont élus au scrutin proportionnel à un seul tour, soit une élection bien différente que celle que nous connaissons en France, Stéphane Robert.
En France, la plupart des élections sont organisées selon le principe du scrutin majoritaire à deux tours. Ce type de scrutin ne permet pas de refléter la diversité des sensibilités politiques. Il est fait pour dégager une majorité et pour permettre à une formation ou à un courant politique de gouverner. Bien souvent, il est résumé par l'adage « au premier tour on choisit, au deuxième on élimine ». Lors d'un scrutin proportionnel à un seul tour, c'est différent. Il n'est plus question d'éliminer, puisqu'il n'y a pas de second tour, il est simplement question de choisir. Tout l'enjeu de ce scrutin réside par conséquent dans la capacité de mobiliser les électeurs de son propre camp, et c'est ce que s'évertue à faire chaque formation politique. À Renaissance, par exemple, les stratèges du parti ont fait les comptes. Ils estiment que sur les 10 millions d'électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle de 2022, il faut en mobiliser 40%, c'est-à-dire environ 4 millions, pour obtenir un score de 20% et sauver cette élection. Comme cet électorat de 2022 était en grande partie composé de retraités, le camp présidentiel multiplie les messages dans leur direction. Pour ces électeurs, le sérieux en termes de gestion des finances publiques est un élément essentiel, tout comme la guerre aux portes de l'Union européenne. Au Rassemblement national, c'est différent. Une grande part de l'électorat se trouve au sein des classes populaires et le ressort de la mobilisation est la colère et la défiance à l'égard du pouvoir en place. Jordan Bardella, par conséquent, multiplie les appels à sanctionner Emmanuel Macron.
Et d'après une enquête Via Voice pour Radio France, France Télévisions et France Média Monde publiée ce matin, 49% des Françaises interrogées se déclarent intéressées par les européennes. À quel point les Français connaissent-ils l'UE? Thomas Cluzel y reviendra dans le journal de midi et demi avec son invité Adrien Broche, responsable d'études chez Via Voice.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. C'est aujourd'hui Yom HaShoah, le jour du souvenir de la Shoah en Israël.
6 millions de Juifs ont été victimes de la barbarie nazie. Un hommage qui a une portée symbolique encore plus forte depuis le 7 octobre. Le massacre le plus important de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Thibault Lefebvre, vous avez rencontré Joseph Engel. Son père a survécu au camp de la mort. Et son petit-fils, Ophir, a passé 54 jours entre les mains du Hamas avant d'être libéré fin novembre. Joseph Engel est un trait d'union entre deux générations marquées à vie par l'horreur, Thibault.
Pour Joseph, le massacre du 7 octobre peut être comparé à la Shoah.
1200 morts en 8 heures, c'est en moyenne plus que le nombre de victimes par heure pendant l'Holocauste.
Il a la passion des chiffres et la mémoire des dates.
Le 24 décembre 1942,
la femme qui s'occupait de l'endroit où il vivait a dit aux nazis qu'il était juif.
is a Jew.
Joseph parle de son papa, Shraga, un juif slovaque qui a d'abord fui son pays pour Amsterdam avant de rejoindre Paris où il a été dénoncé.
Les nazis l'ont attrapé et l'ont envoyé à Birkenau. Mon père a ramassé des corps brûlés et puis il a tué ses gardes et il est parti rejoindre les Américains.
Près de 80 ans plus tard, c'est le petit-fils de Joseph, Ophir, 17 ans, qui a été pris en otage par le Hamas. Il dormait le matin du 7 octobre chez sa petite amie dans le kibboutz de Be'eri.
Il est revenu après 54 jours. Pendant la Shoah, il n'y avait ni pays ni armée pour protéger les Juifs. Et le 7 octobre, pendant les 8 premières heures, il n'y avait là non plus ni pays ni armée sur les lieux du massacre. Pour moi, c'est ça la Shoah.
Et quand Joseph évoque de lui-même les accusations de génocide contre l'armée israélienne à Gaza, il balaie l'hypothèse d'un revers de main et assure que ce n'est pas le moment de se poser la question.
C'est aujourd'hui que le gouvernement français lance des assises de lutte contre l'antisémitisme, avec ce matin à Paris une réunion entre la ministre Aurore Berger, des associations et représentants des principaux cultes notamment. D'après une étude de l'IFOP pour l'American Jewish Committee Paris et la Fondapol, 94% des Français de confession juive estiment que l'antisémitisme a progressé depuis une dizaine d'années. Dans le contexte de la guerre à Gaza, près de 1700 actes antisémites ont été recensés en 2023 en France, contre 436 l'année précédente, selon un rapport du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Des associations dénoncent des actes commis sur fond de remise en cause de l'État d'Israël, Servane de Pastre.
Une remise en cause de l'État d'Israël avec des conséquences parfois dramatiques. C'est ce qui ressort d'une radiographie de l'antisémitisme réalisée notamment par le bureau français de l'American Jewish Committee et que sa présidente Anne-Sophie Seban-Bekash ira présenter aux assises de la lutte contre l'antisémitisme.
La haine d'Israël est perçue comme la première source de l'antisémitisme aujourd'hui. Après le 7 octobre, on voit que cette haine d'Israël se confond avec la haine des Juifs et qu'on prend à partie des Juifs parce qu'on les considère comme sioniste.
Le sionisme est un concept qui date de la fin du 19e siècle et qui prône la création d'un État juif. Il apparaît en pointillé dans la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Cette définition est retenue par la France. D'ailleurs, plusieurs propositions de loi visant à créer un délit d'antisionisme ont été présentées à l'Assemblée nationale et au Sénat ces dernières années, sans aboutir. Pour Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, la création d'un tel délit n'est pas forcément une bonne chose.
Il faut voir quelles seraient les conséquences concrètes d'un tel changement dans la loi, qui permettrait par exemple d'interdire une manifestation au motif qu'elle critiquait l'action d'un gouvernement israélien ou de l'État d'Israël. Et c'est là qu'on retombe sur le flou de la définition de l'antisionisme. Je préfère que le contrôle s'effectue a posteriori, sur la base des lois existantes, plutôt que d'interdire systématiquement et a priori, sur la base d'une définition qui peut être interprétée de manière très extensive.
L'antisémitisme, lui, est bien puni par la loi, avec une sanction pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Servane de Pastre. Avant de connaître le palmarès de la 35e édition des Molières ce soir, qui récompense le monde du théâtre, penchons-nous ce matin sur la fréquentation. Elle est en baisse, 3 millions de spectateurs en moins par rapport à la saison dernière. Pourtant, 64% des Français aimeraient s'y rendre plus souvent, notamment les jeunes. Alors pour les attirer et remplir les fauteuils vides, il existe des applications, Talita Thierot.
Chaque soir, à Paris, sur 50 théâtres, il y a au moins 300 places vides. C'est le cas, parfois, du théâtre Sylvia Montfort. Pauline Biébert est la responsable de communication.
Quand on est à deux jours d'une première et qu'il n'y a que la moitié de la salle qui est remplie, ça peut être assez angoissant et un peu inquiétant. Les spectateurs, dans l'ensemble, ont besoin de plus de flexibilité aujourd'hui, de pouvoir se décider un peu plus au dernier moment.
Alors, pour les attirer en salle, le théâtre Sylvia Montfort utilise l'application Ticketnunc. Créée par Lucille, 22 ans, et trois autres étudiants, cet outil permet d'acheter des places de théâtre le jour même et jusqu'à 72 heures avant le spectacle.
Nous, on habite la banlieue, on ne pourrait pas se permettre d'aller comme ça juste à Paris pour faire la queue au kiosque. Et donc sur Ticketnunc, on a la possibilité de prendre une place si on est à l'école, si on est au travail. C'est vraiment une offre digitale.
Sur Ticketnunk, les places sont vendues la moitié de leur prix, un tarif adapté au budget de Myriam, étudiante.
Là, je l'ai payé 11 euros au lieu de 26, je crois.
Mais payer les places de théâtre à bas coût donne une mauvaise habitude aux jeunes, selon Pascal Guillaume, président de l'Association pour le soutien du théâtre privé.
On l'a vu des fois sur certains théâtres au début, donc ils vont mettre leur place sur des sites de billetterie à 15 euros par exemple. Le jour où leur spectacle commence à fonctionner mieux, quand ils commencent à couper ces tarifs à 15 euros, ben les gens s'arrêtent et ils vont consommer ailleurs, ils vont pas voir plus leur spectacle.
Pourtant, ces dispositifs pourraient attirer des jeunes au théâtre, alors que 43% des spectateurs ont plus de 50 ans.
Talita Thiero, Météo France prévoit un temps instable, souvent pluvieux aujourd'hui et même orageux dans l'ouest. 12 degrés maximum cet après-midi à Belfort, 14 à Amiens et Lyon, 16 à Bordeaux, 18 degrés à Paris et Montpellier.